RMC.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Le Super Football Show.
Verratti à 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after. On est ravis de vous retrouver comme tous les lundis entre 22h et minuit avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot, salut Pierre.
Bonsoir monsieur.
Vous avez noté le générique 100% Stade Rennais où on a retrouvé des grands présidents en hommage à la défaite dans le derby quand même.
Ouais. Pourtant Jérôme n'est pas là.
Pour eux c'est dur.
Jérôme Thomas n'est pas là, non.
Pas si terrible. Écoute,
à la dernière minute,
on pense fort à lui.
Bon, a priori, on va pas parler de cette rencontre.
Non,
vous avez dû le faire hier. Hein, voilà. Mais nous allons parler des avis tranchés, évidemment, sur Real PSG. On est à 9 jours maintenant du match. Pierre a une idée pour la compo d'équipe. Il va vous la révéler tout à l'heure. Fred Hermel parlera, lui, du Real tout à l'heure. Ce sera à 23h avec toutes nos drôles de dames. Il veut dire au PSG qu'il est face à une opportunité historique. On parlera également de cet énorme Liverpool Tottenham hier en Angleterre avec Philippe Auclair. On parlera de foot italien, de foot allemand, de l'actualité de nos internationaux un peu partout en Europe, les questions de l'after au programme, les directs, plein de choses donc au programme. Les directs justement, c'est la Ligue 2 avec Brest qui reçoit le leader Reims sous les yeux de Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Jean-Louis, salut l'after. On joue la 57e minute de jeu et toujours pas de but entre Brest et Reims. On a eu des averses de neige en première période, le terrain est pas simple et les Rémois ont eu les meilleures occasions avec notamment la barre touchée par Marvin Martin et un poteau aussi touché par les Rémois, mais c'est assez équilibré dans l'ensemble. 0-0 entre Brest et le leader de la Ligue 2, le Stade de Reims.
Merci Xavier. En Angleterre, on y reviendra tout à l'heure avec Philippe Auclair. Ça vient de repartir en deuxième période. Watford mène 1-0 face à Chelsea. Bakayoko expulsé côté Blues. Et puis la proie de basket. On suit également cette rencontre entre Dijon et Cholet. 49 partout dans cette rencontre. On débute le quatrième quart-temps. Premier avis tranché du soir, celui de Daniel Riolo.
Putain, Daniel, t'es dégueulasse, Cogno.
Pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole.
Non, ta gueule.
Ça m'était jamais arrivé avant.
Connard.
Et là, Daniel, même si vous avez longuement débriefé ce Monaco-Lyon hier, t'as envie d'insister là-dessus parce que pour toi, ce match peut marquer un tournant dans la saison de Monaco?
Si j'en crois certains témoignages, et même beaucoup de témoignages, parfois dans une saison, un match peut être une sorte de tournant où il peut éveiller ou réveiller quelque chose. Tu sais, quand je fais les matchs le dimanche soir, j'écris papier en même temps, qui est après
sur
le site d'RMC. Quand Lyon a mené 2-0, j'étais en train d'écrire à ce moment-là. Je regardais beaucoup les visages des Monégasques. Beaucoup étaient complètement à la rue. Beaucoup étaient perdus. On sentait une équipe qui était en train de laisser, non pas filer simplement un match, mais une sorte de résignation. Même Falcao avait pas une bonne tête à parler avec les autres. Il y avait pas grand chose. Il y a eu cette action de Keita Baldé, action solitaire, solitaire. Il s'est fait son but tout seul. Il a mis un but. Ça a réveillé Monaco, en tout cas momentanément là, pas encore complètement. Le penalty, c'est un fait de jeu. C'est pas tous les jours que t'as un penalty pour un contact dans la surface. Plus souvent, c'est pas sifflé que sifflé.
Ouais.
Hein. Ça a donné penalty. Falcao a raté, mais il a quand même est fini par marquer. Et là, j'ai tout effacé et je me dis, Monaco dans cette adversité est peut-être en train de trouver un match qu'il n'attendait plus. Jardim a un petit peu changé d'attitude, les joueurs dans la simplicité du choix tactique qui s'offrait à eux, c'est-à-dire on est 10, on va descendre le bloc, on va attendre maintenant et puis si on a l'opportunité d'un contre, pourquoi pas, et en plus ils ont eu plusieurs occasions. Et face finalement à l'attentisme des Lyonnais au fait qu'ils ne trouvent aucune solution dans le jeu, on a eu de façon concomitante aussi bien Monaco qui a trouvé la solution dans le jeu et qui en plus allait gagner le match et qui a profité de Lyon qui finalement lui a donné l'événement. Il lui a dit, écoutez, comme s'il lui avait dit, écoutez, nous là franchement ce soir on va rien faire. On va rien faire, notre coach il trouve rien du tout.
S'il y a un moment où il faut y aller, c'est maintenant quoi.
Notre coach il trouve rien, nous on va pas en remettre. Déjà on en a mis deux au tout début pendant que vous dormiez. C'est un miracle, donc les gars, si vous voulez relancer votre saison, C'est maintenant. Monaco l'a fait. Et la joie à la fin avait quelque chose d'assez assez étonnant quand même. C'était Jardim qui court comme ça et tout. On l'a pas souvent vu faire ça. Et je pense qu'effectivement, ce match peut être une sorte de tournant. Si Monaco avait perdu, je pense que la deuxième place, c'était Lyon-Marseille. Et là, alors, j'élimine personne, mais je me dis que Monaco revient non seulement complètement dans la course, mais avec, et ça, on en a beaucoup parlé, mais les nombreux matchs et les calendriers qui va arriver avec les deux autres qui vont être pris dans les matchs du jeudi, tout va être favorable pour Monaco, qui va récupérer les joueurs blessés, qui va avoir finalement comme objectif uniquement le championnat. Bon, certes, il y aura la finale de la Coupe de la Ligue, mais
pas de confrontation directe, si je me trompe pas, avec
Il va y avoir un match au parc. Il va y avoir le match au parc
avec Paris, mais avec
les deux autres,
Lyon,
c'est bouclé. C'est peut-être le match qui a, en fait, Lyon a manqué l'occasion d'écarter une équipe. Ouais. Je pense que Monaco s'en remettait peut-être pas forcément, tu vois, d'une défaite hier. Alors, j'affirme pas à 100%, mais les impressions que j'ai eues hier et encore plus aujourd'hui, c'est ça. Finalement, Monaco, à travers ce match-là, peut engager une dynamique qui peut finalement porter l'équipe à la deuxième place.
Mais surtout qu'ils ont accumulé tellement de mauvaises nouvelles juste dans la soirée d'hier que maintenant, on va y avoir que des bonnes nouvelles qui vont arriver, c'est-à-dire des joueurs qui reviennent et la dynamique qui est peut-être relancée. Pierre, t'es d'accord avec tout ça?
Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'on a ressenti nous. Alors, je suis d'accord en plus sur le fait que parfois dans des saisons et quand t'as joué au football, mais à tous les niveaux en plus, c'est ce qui est bien avec cette chose-là, c'est que c'est pas forcément propre au très 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 haut niveau ou à l'élite, c'est-à-dire le premier championnat d'un pays. Tu peux le vivre en Ligue 2, tu peux le vivre en national, et je suis persuadé que même tu peux le vivre en amateur pour certains. Les matchs clés comme ça, tu le sens pas tout de suite. Tu le sens pas tout de suite, et puis tu le sens un petit peu plus 4-5 jours après, et puis tu le sens un peu plus quand le match d'après arrive, et puis tu le sens au fur et à mesure, tu te dis putain c'était ce match-là parce que, et tu t'appuies là-dessus.
Mais c'est plus que 3 points quoi, ça va plus.
Ouais, c'est plus
loin
que 3 points parce que t'as quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer, et c'est quelque chose, moi je pense qu'effectivement c'est dans un match,
et surtout quand c'est acquis un peu dans la douleur. Bah,
j'allais dire vous me pardonnerez l'expression, mais dans un match de merde pour Monaco qui commence vraiment mal, aussi bien dans les faits de jeu mais aussi bien dans ce qu'ils y mettent dans le match, c'est-à-dire dans le contenu, ils y sont pas, les Monégasques, Daniel l'a dit, on l'a tous vu, ils y sont pas et ils y croient pas. Alors leur chance, c'est que Lyon était pas bien meilleur, donc ça va, ils sont restés dans le coup. Mais finalement, en deuxième mi-temps, tu retrouves un Monaco qui, pour moi, doit jouer sur ces bases-là. Alors ils joueront pas tous les matchs à 10 en bloc dans leurs 25 derniers mètres.
C'est un équipe qui contre, c'est ça.
Mais oui, c'est la base de leur jeu pour moi. C'est ce qu'ils font à merveille. Et finalement, au fur et à mesure des années avec Jardim, on attend tous qu'il y ait un peu plus d'expertise dans le jeu, qu'ils aient un peu plus le monopole du ballon, etc., etc. Mais je me demande moi s'ils sont faits pour ça finalement. Est-ce qu'ils sont pas faits pour être une très très bonne équipe de contre? Parce que par contre, ça contre à 2000 à l'heure. Et il y a les joueurs pour. T'as les joueurs, l'air de rien, très intelligents, très agressifs pour subir très bas sans concéder trop de buts. Voilà, est-ce que cette équipe de Monaco a pas découvert ou redécouvert son style pour la fin de saison?
C'est vraie nature. Ouais.
Peut-être, oui. Même si l'année dernière, ils arrivaient à faire les deux aussi, ce qui leur a permis d'être champions.
Ah ouais, c'est vrai aussi.
Et est-ce que, pour aller encore un peu plus loin sur Monaco, les états de forme des uns et des autres, ces états de forme ne sont pas en train de dessiner un 11 type vraiment clair qui se dégage? Quand tu vois le match de Ronny Lopez, quand tu sais que Lemar va revenir, que Jovetic est en train aussi...
Sauf que t'as les retours.
Ah oui, mais si tu joues en 4-4-2 comme la saison dernière, Falcao, Jovetic, Lemar à gauche, Lopez à droite.
Le truc, c'est que
ton milieu de terrain, Tillmans, commence à faire de bons matchs avec Fabinho.
Le 11 type de Monaco, ça, moi je l'avais dès le début de la saison, sauf qu'on l'a pas vu.
Ouais. On l'a jamais vu.
Enfin, le 11 type, oui. Bon, je cite pas la défense parce qu'on la connaît. Mais en gros, le fameux 4-4-2 de Jardim. Donc c'était avec Fabinho, Tillmans, Lemar, Ronny Lopez et Falcao. Avec Keita Balde ou Jovetic qui peut entrer,
qui a fait une très bonne entrée
absolument remarquable. Le travail sur le but de Ronny Lopez, c'est un joueur de classe, un joueur de style. Jovetic, son gros problème à lui, c'est la répétition de la performance et les blessures. Mais quand il est sur le terrain et en forme, on sait qu'il est capable du geste de classe. Ça on le sait. Donc cette équipe-là, on l'a pas vu cette année. Mais il reste combien il reste de matchs? 24 pour la 38, 14 matchs il doit rester.
Oui.
On a vu des équipes qui sur ce qu'on appelle des fins de saison, à savoir les 8 derniers matchs ou les 10 derniers matchs, enquiller un nombre de victoires au-dessus de la moyenne est terminée de cette façon. On n'est pas encore dans la dernière ligne droite. On n'est pas encore dans la fin de championnat. Ah ouais. Monaco a le temps de retrouver son équipe type, de récupérer Neymar, Falcao, puisque là, il s'est blessé, Sidibé.
Et même
de voir définitivement installer Tillmans.
Oui, ouais, c'est
vrai qu'il est de mieux en mieux.
Davy nous rejoint au 32-16, supporter de Monaco. Salut.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir. T'es d'accord avec Daniel, j'imagine?
Oui, d'accord avec Daniel à 90%. C'est que Leonardo Jardim n'a jamais pu cette année effectivement aligner quasiment deux fois de suite la même équipe de base. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement à 14 rencontres de la fin, quasiment 15 matchs de la fin, l'AS Monaco peut enfin trouver son rythme de croisière avec une équipe type en 4-4-2. Elle ne ressemblera jamais à l'équipe de l'an passé. En revanche, effectivement, comme dit Daniel, un Jovetic un peu plus stable, à l'abri de blessures. Un Lemar qui revient de blessure, un Tillemans qui commence à trouver ses marques. Cet AS Monaco n'a pas encore livré ses dernières cartouches. Et le seul petit bémol, pardonne-moi Daniel, avec lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense, à l'inverse de toi, que le sprint est lancé. Ce tournant contre l'Olympique Lyonnais, il y a eu une partie, on l'a perdue. Il y a eu la revanche, on l'a perdue en Coupe de France. Et là, il y a eu la belle et on l'a eu de justesse. Cet AS Monaco, je pense, et on verra si le destin me donne raison, a lancé hier soir en avance. C'est risqué, mais a lancé en avance hier sa dernière ligne droite, je pense, sincèrement.
Le sprint peut-être, final, à l'image d'un cycliste, est-ce qu'il a démarré trop tôt ou pas, quoi?
Peut-être pour Monaco, et encore j'en doute, parce que 14 marches,
c'est
beaucoup. Mais quand tu fais un sprint, tu le fais contre des adversaires, t'es d'accord? Et tes adversaires vont avoir des embûches. Donc, pour que le sprint final soit vraiment lancé, il faut qu'en gros, tout le monde soit face à son véritable calendrier. Le véritable calendrier des autres, c'est quand ils vont avoir leur match de Coupe d'Europe dans les pattes, que Monaco n'en auront pas. Et là, on lancera le sprint, et il y en a qui auront des haies, et il y en a qui n'en auront pas. Voilà.
Absolument.
Là, on n'en est pas encore exactement là-dedans. Je te dirais que dans... moi, je pense que c'est toujours plus proche de la 30e journée, le vrai sprint final, moi, tu vois, vraiment.
Oui, parce que là, je suis d'accord avec toi, Daniel, parce qu'effectivement, au regard de ce que tu viens de dire, il en atteste pas moins que Marseille recevra Lyon. On a un Paris Saint-Germain-Marseille aussi qui peut compter énormément si les Marseillais chutent. Et on a un PSG-Monaco aussi. Donc, aux alentours de la 30e et 33e journée, on peut avoir un sprint. L'important, comme tu l'as dit il y a encore 15 jours, Daniel, ainsi que tes collègues à l'antenne en direct, est que contre des adversaires, contre des concurrents directs, il faut pas laisser passer les points. Monaco était encore condamné, on le disait, complètement mièvre sur le terrain. Il n'arrivait pas à enchaîner trois passes d'affilée, autant pour moi. Comptait une infirmerie encore pleine, et on a un Bosquilla qui s'est fait bien remarquer lors des derniers matchs.
Oui.
Il est là, il est présent, il n'a pas été titularisé par Jardim parce qu'il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais on a une AS Monaco renaissante qui aurait pu, moyennant un arbitre un peu plus, je dirais, dans la vérité, s'imposer avec un but d'Emerson qui était totalement valide
au Marseille,
au Vélodrome. Je pense qu'on est d'accord sur ça, qui en ressort avec un match nul plutôt intéressant.
Ouais, on n'est pas forcément d'accord, Davy, hein, parce qu'après il se passe plein de choses dans le match, mais bon, en tout cas, on se rappelle de ta frustration, effectivement.
Il y a des faits de jeu, effectivement.
Oui. Pierre?
Le 17 mars, c'est la 30e journée, et c'est Marseille-Lyon.
Ah bah, il sera peut-être là le début du sprint final, effectivement.
Tu peux, si jamais
merci
on en
David
reste là.
Merci David d'être venu au 32-16.
Ciao David. Si jamais on en reste là, et que Marseille a toujours ses points d'avance sur Lyon, et que Marseille vient à gagner au Vélodrome contre Lyon, tu peux avoir un Lyon complètement sorti de la course.
Les gars, Lyon, justement, parce que est-ce qu'on applique ce que tu nous as dit sur les visages, sur la dynamique, à l'inverse pour Lyon? Est-ce que cette défaite peut faire un peu plus mal que ce que les points laissent suggérer?
Lyon a eu des cycles depuis le début de la saison.
Oui, mais est-ce qu'on retrouve pas l'irrégularité de la saison dernière là?
D'ailleurs, paradoxalement, ils avaient démarré leur très bon cycle en battant Monaco sur le coup franc de Fekir à la dernière minute.
Exactement.
Lyon, à y regarder de plus près, mine de rien, a fait des matchs marquants cette année comme ça, à la dernière minute, contre les gros. On a vanté Lyon contre les gros, ils l'ont fait contre Monaco. Fekir prend le ballon, il le pose, il prend la responsabilité, mais la frappe, il a de la réussite, mais bon, ça arrive quand t'oses, hein, de toute façon. Contre Marseille, ils sont ballottés, chahutés, machin, ils gagnent le match, boulette de Mandanda qui rend pas service à l'OM.
Ils
ont sacré réussite sur ces gros matchs-là. Paris. Et contre le PSG, pareil, avec ce but de Memphis, parce que Kurzawa dégage mal, et puis parce qu'il y a aussi le talent de Memphis pour la mettre pleine lucarne, mais bon. Il n'en met pas tous les jours des comme ça. Là, ils sont clairement une équipe de ce niveau-là qui perd deux matchs de suite. On est obligé déjà de parler de cycle négatif. Donc, moi, je les enterre pas. Mais il va falloir qu'ils réagissent très vite. Il va falloir que Fekir retrouve très vite la grande forme parce que beaucoup de choses à Lyon dépendent de lui. Et ça, c'est une des limites du jeu lyonnais et donc de Pep Genesio qui doit trouver des solutions parce que on le voit bien, et là-dessus, Lyon a pas vraiment progressé dans le jeu face aux équipes qui le refusent ou qui attendent en étant bloc bas. Ça là-dessus, ils ont toujours du mal. Et ça,
mais moi j'en reviens. La limite, est-ce qu'elle peut pas s'arrêter pour Monsieur Genesio en sortant Fekir un match pour le laisser souffler? Simplement,
ça,
moi je
mal à croire que
on en a
arriver.
Parlé hier. Ouais, mais pourquoi pas s'il est un peu, alors si c'est un problème physique, on le sait pas, mais si c'est ce que, enfin en tout cas moi j'ai l'impression qu'il est un peu émoussé.
Là il est dans un enchaînement, ils vont rejouer,
il
rejoue mercredi soir Montpellier Lyon coupe, ouais. c'est mercredi. Derrière il va y avoir championnat ce week-end.
T'as du monde quand même.
Après ça enquille avec Villarreal, le match du
dimanche. Ouais,
là le calendrier il va devenir brillant pour les Lyonnais. Il va falloir que Memphis arrête de jouer un match sur 10, il va falloir que Bertrand Traoré soit plus blessé. Il va falloir que Fekir
retrouve du jeu.
Mine de rien, Touzard, il a manqué. Hein.
Ah, oui.
Touzard, c'est un mec discret.
Aussi, dans l'équilibre, il est super important.
C'est le vrai 6 de l'équipe. Dans le jeu des Lyonnais. Ouais, non, mais je trouve que c'est un peu trop tourné autour d'un joueur au milieu. Quoi, et ça,
si on analyse la dynamique actuelle, effectivement, t'as envie de dire que Marseille et Monaco sont beaucoup mieux partis et beaucoup mieux lancés pour le sprint final que Lyon. Mais les cycles peuvent s'inverser aussi.
Moi, j'ai envie de dire cette saison. On a quand même peu de certitudes dans cette bataille pour le podium. Non. Franchement, chaque semaine.
C'est ce qui est bon,
moi, j'en ai pas. Celle que j'ai et qui transparaît de mon avis, c'est que Monaco pouvait vraiment prendre un sacré coup sur la tronche hier et que ce match-là fait que ça continue à 3. Ça continue une bataille à 3.
Voilà pour le podium.
Alors qu'on aurait peut-être eu qu'une bataille à 2.
Dans un instant, l'avis tranché de Pierre sur Real PSG et sur la compo du PSG. On reviendra aussi, on dirait un mot sur l'anniversaire de Neymar, parce que tout le monde n'a parlé que de ça.
C'est son anniversaire?
Oui, hier soir. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire, on lui souhaite d'ailleurs. D'ailleurs, l'after, j'ai noté, était précurseur, puisqu'il y avait un participant à l'anniversaire de Neymar, qui était invité la semaine dernière. Puisque Malik Bentala y était.
Bien sûr.
C'est quand même impressionnant.
Bien sûr. On connaît du bon, là.
Bah, Daniel, maintenant, quand même. C'est impressionnant. Donc, Watford mène 1-0 toujours face à Chelsea.
Vous aurez Neymar à l'after.
Pas bonne finir la phrase.
Neymar.
C'est vrai que Neymar, il a plus de chances de faire le poker que l'after.
Neymar a plus de chances d'être dans le RMC Poker Show.
C'est ton boulot, ça, Daniel.
Mais on est dessus.
Et tu le fais venir un peu en avance, donc c'est le dimanche soir.
Il va falloir négocier qu'il parle pas foot du tout.
Tu lui dis pas qu'il est dans l'after et qu'il est
dans 10 minutes dans l'after juste avant.
Ben oui,
on avait fait un jour avec Patrick Bruel.
Tu lui dis pas. On mettra des cartes de poker derrière les écrans, là, il verra que du feu.
Bon, les directs. Watford mène toujours 1-0 face à Chelsea. J'ai l'impression que depuis 20 minutes, Olivier Giroud s'échauffe. Il est peut-être rentré depuis. Ça m'a peut-être échappé. Et puis la Ligue 2.
Je crois pas.
Il est toujours pas rentré.
Je crois pas.
Brest,
pas vu, en tout cas.
Reims, Xavier Grimaud.
Et on approche du dernier quart d'heure. 0-0 toujours entre Brest et Reims. Mais il y a quelques instants, la grosse occasion pour les Brestois suite à une très belle montée d'Anthony Weber, le défenseur central. Le centre qui revient sur Weber et la petite remise très intelligente pour Habib Diallo qui attend une reprise acrobatique, ça a frôlé le poteau de Johan Carasso. Légère domination brestoise quand même dans cette deuxième mi-temps, toujours pas de but, 0-0, 75e minute.
Merci Xavier. 69-57, c'est le score pour Dijon face à Cholet en Pro A de basket. Et puis ça y est, Olivier Giroud va rentrer donc lors de Watford-Chelsea, suite de cette rencontre. Les autres directs dans l'after dans quelques secondes, plus la vie tranchée de Pierre Ducrot. Restez avec nous sur RMC, sur BFM Sport.
RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo est là, Pierre Ducrot également pour l'After. Les questions de l'After dans 10 minutes. Il y aura du Florian Thauvin, du Montpellier, du Saint-Etienne au programme. Ce sera dans quelques minutes. Vous pourrez réagir sur le hashtag RMC Live. On passe à Real PSG. Avis tranché de Pierre Ducrot.
Je ne vous jette pas la pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer.
Et là, tu te projettes dans 9 jours, Real PSG. Tu as une envie sur la compo.
La boule de cristal. Non, pas du tout. pourquoi on ferait pas jouer la Sana, ou pourquoi la Sana Diarra plutôt doit jouer Sentinelle. Je vais pas mettre ça au négatif. Pourquoi faut-il faire jouer la Sana Diarra? Il y a plusieurs raisons pour moi. La première, c'est que c'est un joueur expérimenté, et il va falloir de l'expérience, ça va compter. Parce que c'est un milieu défensif de formation et de métier, et milieu défensif, c'est même une sentinelle devant la défense, et que ça va compter aussi d'avoir un joueur comme ça. Parce qu'il y aura de l'impact, un petit peu, avec lui quand même. Il va en falloir, parce qu'il y a du caractère avec la Sana Diarra. Il va en falloir aussi parce qu'il connaît ce genre de match. C'est beaucoup de raisons. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais en même temps, on pourrait aussi se dire, Mota revient. Pourquoi on mettrait pas Mota? C'est un milieu défensif d'expérience, qui a du caractère aussi.
Il a repris l'entraînement collectif dimanche.
Ouais, voilà, il a repris l'entraînement collectif. Il est un peu à court, même si la Sana Diarra, finalement, en termes de compétition, n'est pas bien mieux, voire même un peu moins bien doté que Mota. Sauf qu'il a fait une vraie. Il a pas été blessé. Il était hors compète, mais pas blessé. Il a fait une vraie prépa athlétique avec des préparateurs individuels et les dirigeants du PSG, l'entraîneur l'ont dit. Il est prêt. On pourrait se dire aussi pourquoi pas Lo Celso, puisqu'il y joue à ce poste-là depuis un petit moment. Sauf que pour moi, il y a même s'il s'en sort très très bien pour un poste qu'il découvre un petit peu, il y a un manque d'impact et il y a un manque de densité athlétique à ce poste qui est trop utile. Alors le débat peut rester ouvert, mais j'y vois là en même temps une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de pouvoir se poser ce genre de questions avant un match comme contre le Real. Qui va jouer à ce poste de sentinelle? Donc Diarra, Lo Celso, Mota, quels vont être les deux milieux relayeurs devant eux? T'as le choix du coup, si Lo Celso joue pas en sentinelle, t'as Lo Celso, t'as Rabiot.
A priori, ce sera Rabiot-Verratti ça.
T'as Verratti. Oui, mais t'as quand même le choix. T'as des choix. Tu vas voir où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, t'as des choix à faire quand même. Même si t'en as qui sont un peu plus évidents que d'autres, t'as des choix. Et s'il se passe quelque chose, t'as de quoi faire derrière, tu vois. Quels seront les latéraux, même si c'est avec des choix ou ce poste-là où on est peut-être le moins rassuré. Cavani en pointe, ok. Après t'as Neymar et sûrement Mbappé, comme tu dis. C'est voilà, on sait que ça va être eux, mais finalement t'as aussi un Di Maria qui est en très grande forme. Oui. T'as aussi un Draxler que tu peux mettre à ce poste-là s'il se passe quelque chose, même si en ce moment c'est pas sa meilleure période. Il a rarement déçu quand on a fait appel à lui. C'est peut-être la première fois finalement qu'un coach du Paris Saint-Germain a autant de possibilités avant un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis que les Qataris sont là. Ça, c'est pour moi une très bonne nouvelle. La seule interrogation que j'ai aujourd'hui, et ça, j'arrive pas à y répondre encore, bien que les événements récents, me font dire que ça peut poser problème, c'est la faculté du Paris Saint-Germain à aller mettre vous me pardonnerez encore pour la deuxième fois l'emploi du mot merde, mais les pieds dans la merde si par le jeu, par le talent, ils arrivent pas à s'imposer et qu'il faut aller un peu au combat et qu'il faut aller
montrer les dents.
C'est là que je retombe
un peu sur mes pieds.
On va souvent fréquenter la boue.
La Sana Diarra peut servir aussi à ça parce que j'espère que ça va se communiquer. Et lui, quand il faut y aller là-dedans, il sait faire.
Oui, mais celui qui est censé jouer à sa place, c'est le seul qui sait aussi faire normalement, Thiago Motta.
Bon, ou l'un ou l'autre. Mais voilà, moi j'ai un petit doute sur Motta, même s'il l'a fait par le passé d'être blessé une assez longue période et puis de revenir. C'était contre le Barça où il fait un match énorme.
Contre le.
Mais c'était il y a 2 ans et demi, voire 3 ans même. Il y a les années qui comptent aussi quand même un petit peu.
Alors Daniel, qu'est-ce que tu penses
dans le match de la honte?
Non, il est pas là dans le match de la honte, c'est vrai qu'il aurait servi. Il aurait servi, effectivement.
Ni à l'aller derrière, d'ailleurs.
Moi je veux bien, mais ce sera un truc fou. Quasiment unique, non? Pour l'instant, donc il a joué 35 minutes. Il lui reste Sochaux et Toulouse.
Il a joué 10 minutes, oui, voilà. 30 minutes.
C'est ça.
Ça ressemble aussi à un petit plan où tu le fais jouer.
Il y a des chances qu'il soit titulaire demain. Hein. Emery a dit que ce serait une bonne option qu'il soit titulaire. Jouer une heure.
10, 30, 70 minutes.
C'est ce que j'ai dit. Derrière, donc, deux bouts de match, Sochaux, Toulouse, titulaire contre le Real.
Ouais,
franchement, j'en sais rien.
Bah, ce serait une première, t'as peut-être raison. Faudrait vérifier, mais.
Je veux voir. Franchement, si c'est le cas. Alors là,
Mota l'avait fait contre le Barça.
Qu'est-ce qui t'embête, Daniel, en fait?
Je sais pas, c'est le fait qu'il joue pas depuis autant d'années, qu'il ait pas joué un match de Ligue des Champions depuis des années.
Pas autant d'années quand même.
Sur une saison. Match de Ligue des Champions, ça date un peu quand même.
Ah, sur un match de Ligue des Champions, oui.
Ah, bah, non, les matchs de niveau, c'est pas les matchs.
Oui, mais que j'avais regardé, c'est 6 ans, je crois, la Ligue des Champions.
Oui, oui, oui.
Les,
oui,
matchs,
mais
les matchs dans le championnat de France, bon, tu vois.
Oui, je suis d'accord.
Non, non, mais pourquoi pas.
Quand il a joué en équipe de France, par exemple, même si c'est pas la Ligue des Champions, c'est des matchs internationaux.
J'en sais rien.
Il a pas déçu, tu vois.
Non, non, bah écoute, on verra. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus.
Bah, disons qu'il a, voir. Oui, en fait, il a tellement surpris aussi parfois dans sa capacité à revenir au haut niveau que on reste un peu prudent.
Si tu veux, moi j'ai moins de.
Mais
j'ai
c'est
moins
vrai que c'est un mec qui est un peu capable de coups, de surprises. C'est un mec qui est la première fois que je le vois réellement, même si je l'avais vu jeune là quand il a fait
Arsenal.
Ses. En Angleterre. Non, mais il y a un premier élément dans sa carrière, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Qui est un match de qualif, je crois, contre l'Italie,
oui.
Où il joue arrière droit.
Mmh. Il est excellent d'ailleurs.
On lui demande juste d'être béton, d'être sérieux à ce poste-là, machin, et il fait un très bon match. Voilà. Mais ça m'avait marqué sa capacité comme ça à remplir une mission. Mmh. Et là, c'est un peu ce qu'on lui demande finalement.
Tu veux que je te donne une autre anecdote et comment commence la carrière de la Sanadira dans le monde pro, c'est au Havre, vous le savez. Moi, à l'époque, je suis au Havre. Et c'est un gamin qui est à Nantes, avant. Je sais plus exactement pourquoi, je veux pas dire de bêtises, je sais plus s'il y a un problème sur le contrat que on voudrait qu'il voudrait que Nantes lui offre ou
en
pas,
matière,
etc.
En matière de contrat, il est méga galère.
À l'époque,
tout
il est jeune.
Ce qu'il a fait en Angleterre après, c'était méga
galère.
C'est quand
même un
comment
mec il arrive
à chaque fois qu'il part de quelque part.
Attends, je vais finir mon anecdote, Daniel, parce qu'elle est importante finalement, et tu te rends compte que 15 ans après, c'est un peu toujours la même chose, sa carrière. C'est que à Nantes, il veut pas signer. Sauf qu'il est, tu sais, les jeunes quand ils sont formés dans un club, ils sont obligés d'accepter ou sinon ils peuvent pas aller ailleurs. Sauf si le club ailleurs veut bien mettre des sommes qui sont assez importantes. On passe les détails, mais en gros, la Sanadira décide pendant un an, une saison, d'arrêter le football.
Ouais.
Il s'inscrit nulle part pour faire cette année off, sans club, et il signe qu'un an après. Alors il est pas resté sans rien faire. Il a travaillé, mais il était jeune à l'époque. Hein. Il était tout jeune. Hein. Il a travaillé tout seul. Il arrive au Havre. Il arrive pas comme un gamin qui est à court de compétition, etc., qui a pas joué pendant un an. Il arrive, il met le pied sur le terrain. Moi, je peux te le dire, j'étais au même poste que lui. Au bout de 3 entraînements, tu te dis, ouais, c'est même pas la peine. Le petit, il va jouer, il va s'imposer, il courait partout, il harcelait, il récupérait tous les ballons dans les petits jeux, dans les grands jeux, dans les oppositions. Et finalement, il a toujours répété ça un petit peu. C'est-à-dire que moi, je suis moins inquiet.
C'est vrai,
quand Lass revient.
Sa carrière, elle est faite. T'as l'impression que c'est
comme ça.
Le gars t'appelle, mission.
Et
oui,
par
c'est
contre,
ça.
Et
moi,
par
je suis
contre,
plus inquiet si tu dois construire une grande équipe autour de lui, oui.
Et dès qu'il faut sur un long terme, un plus long terme, mis à part au Real où il a quand même un peu plus duré, un petit peu plus.
C'était compliqué aussi.
Moi, je me souviens.
C'était bizarre.
Honnêtement, pour en parler avec Fred Hermel tout à l'heure aussi, moi j'étais à Madrid à cette époque-là, et je me souviens que justement quand il a pris trop de place dans l'équipe. C'est là où ça a fonctionné plus. Des joueurs comme Xabi Alonso qui jouait à côté avait un peu de mal avec son jeu et tout. Mais effectivement, pour les missions de combat, les missions commando, les matchs contre le Barça où fallait aller mettre des coups, bah là il était très bien.
Ouais.
Et c'est sûr qu'il a quand même une mentalité qui pourra pas faire de mal dans ce PSG-là.
Moi, je suis assez sûr de ça.
Eh bien, on verra ça.
Daniel, tu voulais qu'on parle aussi de l'anniversaire de Neymar.
Eh oui,
ah bah je balance, c'est toi qui as voulu. Donc non mais alors je donne quand même 2-3 dernières infos.
Daniel, il a
aujourd'hui
bien aimé la petite liste hier.
Non mais fait, c'est aujourd'hui quand même l'anniversaire de Neymar, il l'a fêté hier, enfin dans la nuit. Mais donc aujourd'hui, Unai Emery a été interrogé sur le sujet quand même. Il a dit pas de problème pour la vie de groupe, c'est très bien ce qui s'est passé. Donc pour la soirée d'hier, pas de problème. Neymar qui est pas dans le groupe pour le match de Coupe de France.
Il peut pas tout faire
Non,
prévu,
exactement.
Prévu, je crois.
L'anniversaire qui est pas terminé puisque sur plusieurs endroits à Paris ont été diffusés des bons anniversaires Neymar sur le drug store Publicis des Champs-Élysées notamment, où des messages de supporters vont être affichés sur le Parc des Princes en gros et sur le Bon Marché également. On souhaite bon anniversaire à Neymar. Et puis au milieu de tout ça aujourd'hui, donc les Sochaliens sont énervés, notamment Florian Tardieu,
oui,
le capitaine. Non, ils sont deux, même Tousgar est un peu énervé. Écoutons d'abord Florian Tardieu donc avec Jérémy Pignard aujourd'hui.
Excusez-moi du terme, mais ça nous chie dessus un peu, on va dire. Et ça me plaît pas. Ce qui paraît sur leur site officiel, dans les matchs à venir, ils ont mis déjà quart de finale contre équipe à déterminer, donc ils se voyaient déjà passer. Ils font une fête où certains joueurs devaient être un peu bien quand même, donc juste avant un huitième de finale, donc ouais, ils ne respectent pas. Donc sachant que moi j'ai dormi à 8h30 et eux ils font la fête. Ouais, là, ils ne nous respectent pas. Non, mais après, c'est leur problème, ça. Ils préparent comme ils veulent.
Voilà, Florian Tardieu. Je précise pour l'histoire du calendrier. Effectivement, c'est pas sur le site du PSG. Hein. Il n'y a pas écrit le quart de finale. Twitter. Mais sur le compte Twitter, ils ont fait un programme avec les rendez-vous à venir.
C'était un programme pour définir les rendez-vous à venir. Donc, effectivement, s'ils sont éliminés, bah, ils enlèveront la ligne. Et s'ils sont qualifiés, ils pouvaient pas dire contre qui, quoi.
Alors, à tout ça, j'ajoute une dernière pièce au dossier, le demi-coup de gueule, parce que c'est un demi-coup de gueule, d'Éric Dimeco dans le Super Moscato Show aujourd'hui, sur la présence de Luis Gustavo à l'anniversaire de Neymar. Alors, Éric ne dit pas c'est un scandale, etc., mais il dit, moi, à mon époque, c'était impossible. Je m'entendais bien avec Alain Roche, par exemple, mais jamais je serais venu à son anniversaire.
Ouais, mais à l'époque,
Peut-être que les choses ont changé, c'est ce que dit Éric, mais voilà, moi, ça m'a quand même posé question ce qui s'est passé.
Sur ce point-là, j'ai posé la question, puisque sur Twitter, la moyenne d'âge est quand même assez basse. J'ai posé la question pour savoir, parce qu'effectivement, moi, j'ai entendu ce qu'a dit Eric. Et clairement, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais il est clair que le côté un PSG, ouais, mais tout, c'est ringard, démodé, ça marche plus auprès de personne. Ouais.
Non, mais c'est surtout, très bien. C'est surtout que les joueurs n'ont plus cette identité, d'un côté ou de l'autre.
Moi, je voulais, l'identité, tu peux penser à tes supporters, si ça pose problème, etc.
Je crois pas que les leaders d'Assos à Marseille, les anciens, aient pris ça très très bien. Voilà, je pense. Les jeunes, ils s'en foutent. Gustavo fait une bonne saison à l'OM. Il le connaissait pas il y a six mois.
Il était très bon contre le PSG.
Il est irréprochable.
C'est l'idole maintenant. Aujourd'hui, le foot, c'est ça. C'est de la consommation rapide.
Garcia a dit là-dessus, il est tellement exemplaire au quotidien.
En 20 bons matchs, tous les supporters se couchent aujourd'hui. Quoi. À une époque, ça se faisait pas comme ça. Maintenant, c'est comme ça. On n'a plus du tout les mêmes conceptions. Et je sais pas ce qui est bien ou pas. Je donne aucune leçon. Je dis qu'il y a d'énormes différences.
Oui, ça a changé.
Moi, supporter, un joueur, il pouvait faire 20, 30 matchs et tout. Il fallait qu'il fasse des années très bien.
Tout a changé.
Sauf qu'aujourd'hui, les mecs changent de club vite et tout.
Mais Daniel, tu signais pas pro à 17 ans à l'époque, comme tu signes pro aujourd'hui aussi, sans avoir joué un seul match en Ligue 1.
Aujourd'hui, un supporter se couche après 10 bons matchs d'un joueur. Pas de problème. C'est les temps qui changent.
Et le reste, ça te pose problème? L'anniversaire en milieu de...
Mais qu'est-ce qu'il doit poser? Ah oui,
je sais pas, t'es en plein milieu d'une séquence où pendant 2 mois, tu joues tous les 3 jours et tu te fais une soirée comme ça.
Est-ce qu'il vaut mieux pas le faire comme ça, de façon totalement déclarée, assumée, avec le club qui gère, tout le monde était là, ça c'est aussi une soirée qui sert justement au niveau de la cohésion, et puis on a suffisamment communiqué comme quoi il y avait peut-être des problèmes dans le vestiaire parisien, que le club ne communiquait pas assez, etc. Et ben là, tout est fait au grand jour, tout le monde était à la soirée.
Moi, je me trompe peut-être, mais est-ce que comme ça, en cours de saison, deux matchs avant un jour de coupe, Cristiano Ronaldo, il fait ça?
Peut-être pas. T'as peut-être raison.
Je sais pas, une star en Angleterre, est-ce qu'Harry Kane il fait ça? Est-ce qu'on projette dans Londres?
Tu sais quoi, en Angleterre, ils font pire des fois.
Ouais, c'est quoi, on demande Rodolphe
Delaine? Il y a des périodes où ils se mettent minables après des matchs, alors qu'ils jouent 3 jours après.
Je te parle de la fête institutionnalisée, le monde projeté partout, la mégalomanie, le délire et le barnum permanent.
Non, ça se fait pas parce qu'en Angleterre les clubs sont des institutions et c'est pas les clubs qui ont fait des anniversaires.
Moi je demanderais ça aujourd'hui.
Tout ça est très nouveau.
Ça fait partie de la construction du Paris Saint-Germain aujourd'hui.
Il faut qu'on s'habitue à ce genre de choses là. On est clairement pas habitué.
C'est le progrès, Daniel.
C'est aussi que le Paris Saint-Germain
est une réelle volonté des mecs faire ça. Donc en gros, c'est de toute façon sur le territoire français, on chie sur tout le monde, on est plus fort que tout le monde, même si on fait la fête la veille, que si on s'en branle, on gagnera le match.
Non, la vraie question, c'est le lien PSG Neymar. Est-ce que c'est Neymar qui impose ça au PSG, le PSG qui accompagne?
Je crois que les deux ont envie de le faire. Le Paris Saint-Germain a aussi envie de dire à tout le monde, l'anniversaire de Neymar.
Aujourd'hui, plus rien, il ne cache plus rien. Partie de poker jusqu'à 2h du mat sur Insta, c'est bien, enfin c'est pas caché, c'est dit, quoi. Moi tout ça m'épate. Je n'ai aucun jugement là-dessus, ça m'épate. Je regarde ça, je me dis mais il y a tout ça, mais Mais si se font taper en huitième de Ligue des Champions. Mais t'imagines le risque du ridicule que tu prends.
Moi je pense que cette fête-là, avec tout le club, non, avec tous les partenaires.
Je sais pas, moi je suis totalement.
Moi, ça me dérange moins que des joueurs qui vont fumer la chicha au verre avant un match. Non, par exemple, ça me dérange carrément moins.
Mais aujourd'hui, de toute façon,
c'est moins professionnel.
Plus rien n'est. Moi, à chaque fois, on me ressort l'argument. Ouais, mais les autres faisaient, les autres. Non, mais les autres, ils faisaient pas comme ça, ou sinon, les autres, au bout d'un an, ils craquaient finalement.
Ouais.
Parce que c'est pas le ponctuel qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire.
Ouais, sur la durée, bien sûr.
Là, moi, je dis, ok, très bien. Tu fais, quoi. C'est la fête. Paris a décidé de se mettre à tes pieds. C'est génial, tout. Si jamais contre ce Real là qui a l'air mal en point et tout, mais tu passes pas, quoi.
Ah bah là tu reprends tout dans la tête, hein, ça c'est sûr.
Donc quand même tu te mets dans une position un peu inconfortable au niveau du risque de.
Ouais.
Je sais pas.
Ouais, mais est-ce que avec un garçon
est-ce que
comme
quand
Neymar,
tu le signes,
est-ce
que tu dois accepter tout ça?
Je sais pas. J'ai pas envie de te dire oui ou non.
Il est génial, hein, moi je le trouve super. Son coup franc c'est extraordinaire. C'est un joueur fabuleux. Mais le problème c'est. Il est pas venu pour battre Rennes, hein.
Non, je suis d'accord. On attend maintenant là. Mais est-ce que finalement, quand tu prends Neymar, t'es pas obligé de faire un petit bassin?
Avec ce rythme de vie comme ça, c'est pas Cristiano Ronaldo ni Messi. Hein. Ça, faut le savoir.
Je sais pas ce qu'il faisait au Barça. Quelle était sa vie à Barcelone?
Il sortait et tout,
aussi.
Ce que je veux dire, c'est que si son but, c'est d'être l'équivalent des deux autres un jour et tout, avec l'hygiène de vie qu'il a, c'est pas possible. Ouais. Il n'y arrivera pas. Il peut très bien gagner la Ligue des Champions cette année et tout, mais.
Tu veux dire sur la durée.
Cristiano Ronaldo, c'est un moine.
Oui, non, puis c'est beaucoup de travail.
Et Messi aussi. Hein.
Allez, on arrête là sur Neymar. C'est terminé à Brest. Brest-Reims, la Ligue de Xavier Grimaud.
Ouais, c'est terminé. Score nul et vierge entre Brest et Reims. 0-0. Plutôt bon résultat pour les Rémois qui vont rester tranquilles dans la course à la Ligue 1 avec 12 points d'avance, hein, sur le 3e Ajaccio. Brest décroche un peu dans la course au barrage, ils ont 3 points de retard sur Lorient, le 5e.
Un bon 0-0 le lundi soir, régale.
Des conditions pas simples avec les averses de neige notamment.
Bon bah rentre. Mais bien, sois prudent, tiens Xavier.
Le PSG est en train de construire là une équipe, je dis pas un club, je dis une équipe qui peut être capable d'un gros coup, c'est-à-dire de gagner la Ligue des Champions de cette année, pourquoi pas, tout est envisageable, mais ils sont pas en train de construire un club qui peut durer comme ça, c'est pas possible. Comme ça tu dures pas. Comme ça t'es pas le Manchester de Ferguson, t'es pas le Barça de Messi, t'es pas même le Real de ces dernières années, t'es pas un club comme la Juve, t'es pas un club comme le Bayern.
Là
t'es un
club de manière.
T'es un club assumé.
Est-ce que tu peux le devenir un jour de toute manière? Parce que ces clubs-là ont trop d'avance finalement à ce niveau-là, au niveau de l'institution, de l'histoire, etc.
Tu peux imposer un cadre, il n'y a pas de problème à ça, tu peux le faire.
10, 20 ans pour arriver à...
Et tu peux rien t'empêcher de faire, mais là en tout cas, ils font le coup du gros coup, quoi.
Allez,
voilà,
on s'arrête là.
Je gagne la Ligue des Champions avec un Neymar extraordinaire sur une année, mais bon, après tout, peut-être c'est ça qu'ils veulent. Hein.
Autre match en direct, désormais Watford mène 2-1 face à Chelsea. Hazard avait égalisé il y a quelques minutes.
J'ai pas vu.
Bah oui, j'arrête pas de parler.
Il y a eu une action de Watford. Là, qui était belle.
Et deuxième but de Watford à l'instant, bien conclu. On en reparle tout à l'heure avec Philippe Auclair. Dijon s'est imposé 78-62. Ça, c'est de la proie de basket. Et dans un instant, les questions de l'after avec l'une d'entre elles, supporter marseillais. Restez avec nous sur Florian Thauvin. À tout de suite.
David Luiz, c'est impressionnant.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, comme tous les lundis, les drôles de dames se préparent. Dans un quart d'heure, on commencera par l'Espagne avec Fred Hermel et une nouvelle désillusion pour le Real. Ce week-end tenu en échec face à Levante, tout ça à 9 jours de ce Real PSG. On suit également Watford-Chelsea, on y reviendra avec Philippe Auclair. Troisième but pour Watford qui mène 3-1 désormais. Le but de Deulofeu, l'ancien joueur du Barça. Les questions de l'after tout de suite. On va revenir sur l'OM qui a gagné 6-3 face à Metz. Est-ce que Florian Thauvin, question simple, on attend une réponse simple et on attend la vôtre sur le hashtag RMC Live. Est-ce que Florian Thauvin est le meilleur joueur offensif français du moment?
Français?
Oui.
Pas en France, français.
Ouais, français, ouais.
Oui, moi je dirais oui.
Je sais pas, mais...
Si, moi je dirais oui, parce que... Ou alors je sais pas ce que j'en oublie, mais français...
Bah français c'est quoi, bah
non,
comparé
mais il y en a pas
à Benzema,
ça.
Griezmann...
Non, mais en Ligue 1 ou tout court?
Non, français.
Ah, français tout court...
Sur la forme du moment.
Lacazette, Ribéry.
Il joue pas à Lacazette.
Thauvin est beaucoup plus efficace en ce moment que Ribéry.
En fait,
après, c'est toujours dur de comparer.
La question.
Non, je trouve
non, mais
c'est pas l'intérêt de la question, c'est que je la trouve bête, la question.
parce que ça compare différents championnats, etc.
Et surtout, ça
équipes.
Compare des mecs qui ont fait des choses bien différentes dans leur carrière. Moi,
oui.
je trouve que ce qui est le plus intéressant à
mais
se poser
oui,
comme
c'est
question
sur la forme actuelle. Du moment.
Non, ce qui est le plus intéressant sur Thauvin, qui fait une très belle saison, qui fait sa meilleure saison d'ailleurs,
c'est sa progression.
Qu'est-ce qu'il va faire de sa progression, Thauvin? Le choix pour lui en fin de saison va être très très important. Il a connu des saisons de galère, il s'est remis à l'endroit et là il est très bon. Il est dans le club qu'il aime. Mm-hmm. À la fin de la saison, soit il y aura Ligue des Champions, soit il y aura pas Ligue des Champions. Mais dans sa tête, il y aura aussi une autre question, c'est qu'est-ce que ce club que j'aime est susceptible de faire en Ligue des Champions? Et moi, qu'est-ce que je fais avec ma carrière perso? Et on sait qu'aujourd'hui pour les joueurs, même s'il a démontré dans le passé son attachement à l'OM, à un moment je pense qu'il va vouloir aller voir ailleurs.
Mais c'est même pas une question de Ligue des Champions, Daniel, je pense. Que l'OM ait la Ligue des Champions ou pas.
J'allais y venir. Le problème, c'est que.
Il va pouvoir aller chercher autre chose.
S'il est approché par des gros clubs, et ça risque d'être le cas.
Ouais, bien sûr.
À 50 millions ou une somme de ce genre-là, l'OM va vendre. Mmh. Et Thauvin partira pour un salaire plus important. Et pour un club où il jouera sur la Ligue des Champions et avec de l'ambition. Je sais pas, je crois savoir qu'il y a deux, trois vrais clubs qui sont sur lui. En fait, aucun des deux ne pourra refuser, ni le joueur, ni l'OM.
Ouais.
Et il devra partir, parce que sa carrière en équipe de France en dépendra, sa carrière perso et ses ambitions en dépendront aussi, il a pris déjà beaucoup de retard.
Plus ça que l'équipe de France, que je pense qu'en restant à l'OM et en étant aussi performant, je pense qu'il pourrait...
Il a toujours dit c'est une limite. La Ligue 1, c'est une limite. La Ligue 1, c'est une limite. Parce que
ouais,
Thauvin,
mais si,
Thauvin,
après, faut qu'il reste aussi performant que ça quand
parce
il est à l'OM.
Thauvin, à ce jour... Oh là, Chelsea, ils sont en train de prendre dérouiller, là.
4-1.
À ce jour, Thauvin est un très bon joueur de Ligue 1, mais il n'a encore jamais rien montré d'autre. On peut dire il va montrer, mais on n'en sait rien.
Oui, il l'a pas encore fait.
Ce genre de pari, donc ça forcément lui.
Ah, puis il doit avoir envie de.
Ça va le tenter. Bien moi sûr. J'aimerais qu'il reste à l'OM parce que l'OM construit un gros club et a envie de revenir. Mais aujourd'hui l'OM dans le classement de l'UEFA c'est au-delà de la 50e place.
Oui.
Ils vont jouer l'Europa League déjà, ne serait-ce que là dans l'Europa League. Il va falloir voir comment il se comporte, même contre Braga. Et si ça passe dans les tours d'après, et les clubs qui veulent le recruter vont regarder
bien
ce
sûr.
Qu'il fera à ce moment-là.
Non, puis l'OM va être confronté au problème qu'ont tous les clubs français sauf le PSG.
Voilà.
C'est qu'à un moment donné, quand t'as des
c'est
top
la limite
clubs
de
européens,
nos clubs, malheureusement.
Oui, de tous nos clubs, sauf le PSG qui a les moyens, mais le reste,
et pourtant,
tu ne peux pas garder ces gens-là.
Mais j'aimerais vraiment que l'OM ne soit pas concerné par ça et qu'il se construise le gros club.
Ah, mais
le problème, c'est qu'on ne sait pas. Si l'OM a les moyens d'être un club à 200 millions de budget, à augmenter sa masse salariale.
On le sait en tout cas sur l'année prochaine. Ça paraît compliqué. Là.
Ça paraît pas être la route.
Non.
Voilà, ce sera
ça.
Intéressant à suivre l'évolution de l'un des meilleurs joueurs français du moment.
Son évolution, encore une fois, c'est prix du transfert posé sur la table, il part. Hein.
Peut-être pas tout de suite. Il a peut-être envie quand même, si à Ligue des Champions, de rester et d'être bon en Ligue des Champions.
Il ne loupera pas l'occasion de partir dans un grand club européen.
Moi, je pense si à Ligue des Champions, il reste.
Si à Ligue des Champions. Avec pas de recrutement, que c'est juste pour aller faire figuration en poule, il part. Surtout, c'est.
Mais
Jean-Louis, il y a pas, je ne crois pas. S'il y a 40 millions sur la table, l'OM y vend, là.
Oui, mais est-ce qu'il y aurait 40 millions pour Thauvin cet été?
Tu vas commencer à les avoir, là. Même
peut-être plus de la politique fiction, là. Excusez-moi.
Non, par rapport à
ce que tu dis au courant qu'il y a des offres de 40 millions pour Thauvin.
Je ne dis pas qu'il y a des offres, je te dis qu'il y a de l'intérêt de gros clubs. Et des clubs qui ne viennent pas, et qui ne viennent pas avec une mallette avec trois billets dedans.
D'accord.
Non, mais là, ça commence à confirmer, tu vois. On n'est plus au début de l'année où effectivement.
Il y a un observatoire, là, qui s'amuse à donner la valeur et tout. Ils disent qu'il est estimé à 70. Comme je relativise cette valeur tant qu'on ne voit pas les sommes, on ne peut pas dire. Toi, je relativise vachement, je descends de 30. C'est déjà beaucoup.
Tu sais
à ce prix-là, l'OM,
on enchaîne
immédiatement
sur l'after.
Des petits jeunes sont achetés 20 millions d'euros.
Alors,
maintenant,
ils vont dire machin.
Ça paraît pas fou, mais
quand t'arrives à l'été, il partira.
D'accord. Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne. Vous m'avez dit la semaine dernière, le choc psychologique, ça dure pas, etc. Bon, ça a duré le week-end dernier encore.
On a pas dit que ça durait pas.
Non,
on a dit qu'on a dit ça comme ça.
Tu vas arrêter de nous faire dire ce qu'on a pas dit, Jean-Louis.
D'accord.
Non, mais
on s'est posé la question.
Point
alors, on s'est posé la question, on m'a dit, ça dure pas. Vous verrez que les mêmes problèmes reviendront au bout d'un moment.
On
n'a
pas dit ça du tout. Non, moi, j'ai pas souvenir.
Moi, j'ai le souvenir que vous avez dit ça.
Absolument pas. Non.
On écoutera ensemble l'after.
En tout cas, Bordeaux, Saint-Etienne. Mais ce qui est choquant dans ces deux équipes, c'est à quel point elles ont changé complètement. On a l'impression qu'on voit pas les mêmes équipes.
C'est plus choquant. Plus choquant de Bordeaux que pour Saint-Etienne.
Saint-Etienne, c'est pas la même équipe. Au sens premier, je voulais dire.
Ah oui,
les
oui.
joueurs qui sont alignés.
Ah oui,
mais ça choque pas plus pour Bordeaux, toi? Parce que Saint-Etienne, t'as eu des vrais changements de joueurs.
Non, mais Bordeaux, en plus, depuis qu'ils ont Stromae comme entraîneur, là, c'est complètement différent.
Quoi, Stromae?
Ah, bah, il lui ressemble un peu, c'est vrai.
Poyet?
Évidemment.
Oui,
mais n'importe quoi.
Si, un petit peu quand même.
Évidemment. Mais Jean-Louis, mais tu dors ou quoi?
Tu l'as vu où, ça vient de toi ou tu l'as vu quelque part?
Ah,
c'est bien trouvé.
Un ami, sur, non, même pas sur Twitter, parce que c'est devenu par mail, qui était déjà venu dans l'émission nous regarder, Ali, il s'appelle.
D'accord.
Et ça m'a fait beaucoup rire quand il m'a dit ça. Et je pense qu'il a absolument raison. Mais si, bien sûr, quand il, les mimiques et tout, le visage quand il se marre.
Et ça choque pas plus pour
Bordeaux. Enfin bref.
Il y a eu moins de changements de joueurs finalement que Saint-Etienne. Saint-Etienne, il y a eu des vrais apports.
Saint-Etienne, j'ai l'impression, c'est, t'as changé complètement l'équipe.
Ouais.
Voilà.
C'est le cas, t'as rajouté des internationaux.
Ah là, oui, c'est voilà, donc ça c'est à la limite moins choquant. Bordeaux, tu te dis que c'est les mêmes.
Et non, Bordeaux.
Alors, pas tout à fait les mêmes parce qu'il y en a qui jouent alors qu'ils étaient mis à la
carte. La charnière centrale, c'est pas la même. Le milieu de terrain, ouais, c'est pas le même. Et le numéro 9, c'est pas le même.
C'est vrai aussi.
Il y a des vrais changements.
Bon, donc c'est pas un vrai choc psychologique du coup, vu qu'on a changé les joueurs.
C'est mélangé. C'est choc psychologique avec changement d'équipe, ce qui est rare en mercato.
Donc finalement.
T'as regardé, t'as vu la photo, tu dis il a raison, ce con.
Mais donc finalement, quand tu dis qu'il y a le choc psychologique et les changements, on saura jamais si c'est vraiment un choc. C'est peut-être que les changements.
Là, pour le coup, c'est plus c'est les deux. On n'est pas dans la config normale du choc psy.
Sache que je ne dirais pas il a raison ce con en parlant de toi. J'ai un peu plus de respect quand même dans ma tête.
Tout le monde.
Debuchy, ah bah tiens, puisqu'on était sur Saint-Etienne, Debuchy, Envila, Entep. Est-ce que l'un d'entre eux retrouvera l'équipe de France cette saison?
Non, ça j'y crois pas.
Non, moi non plus.
Ah, moi, Debuchy, j'y crois.
Ah ouais?
Ah bah je vous le dis, j'y crois. Parce que avec Sidibé,
oui, parce qu'il y a pas de personne. Ouais.
Les autres, c'est sûr que c'est compliqué, mais bon. Non, Debuchy, pourquoi pas? Il était dans.
Je réfléchis dans ma petite tête.
Debuchy, il y a quelqu'un arrière droit. Sidibé, Jallet, certains, sauf blessure.
Pavard. Non, il y a un coup à jouer pour Debuchy en deuxième.
Ouais, il y a pas grand monde. Enfin, en tout cas, t'as pas des mecs qui s'imposent à part Sidibé, quoi.
En tout cas, c'est son ambition et il était avec nous dans Team Liga tout à l'heure.
On a des nouvelles de Pavard d'ailleurs.
Pavard, c'est pas top ce qui se passe. On demandera à David Lortot tout à l'heure, mais c'est pas
on
top.
On a plus du tout parlé.
Ouais. Mais il joue en défense centrale en plus.
Oui, c'est pour ça que j'allais te dire pourquoi à droite.
Et alors non, juste Debuchy, donc il était avec nous dans Team du Gast cet après-midi. Et en gros, t'as bien compris que Gassé, il l'a fait venir en lui disant t'as un coup à jouer arrière droit en équipe de France, viens chez nous. Moi je te ramène en équipe de France quoi, en gros. C'est le discours pour le convaincre quoi. Bon. Et puis dernière question de l'after ce soir. D'ailleurs c'est terminé à Watford, ça finit à 4 hein, face à Chelsea, il me semble, 4-1.
Belle volée.
Oui, belle volée. Der Zakarian est-il sous-coté? Voilà. Ce week-end, coaching payant qui offre la victoire à Montpellier. En plus de ça, Montpellier est 6e. On en parle assez peu alors que d'habitude on parle énormément de Ranieri par exemple avec Nantes, mais on parle peu de Der Zakarian qui a 3 points de retard seulement par rapport à Nantes.
Moi, je le sous-cote pas, je le connais très bien. Je suis allé le voir pour Transversal.
Mais est-ce qu'il n'a pas une image de l'entraîneur dont on parle peu?
Sous-côté,
on en parle assez peu.
On lui confie pas un gros club, par exemple.
Non, on met pas assez en avant ses performances.
Parce qu'il est à Montpellier,
fait.
Parce que Montpellier c'est un club dont on parle toujours moins.
Non,
c'est
moi
la
je pense qu'il y a une image derrière.
Moi je vais dire mon avis, si tu poses la question, Louis, je te donne mon avis. C'est que il a le revers un petit peu de la médaille, c'est que ses équipes défendent super bien, c'est super organisé, mais c'est jamais très agréable à regarder jouer.
C'est là où je voulais en venir.
Et qu'à un moment donné, on se dit que c'est un bon coach, mais pas plus. C'est un peu le revers de la médaille, quoi.
Mais alors,
c'est que ça fait pas, excuse-moi l'expression, border les gens de regarder Montpellier et que t'as un peu ce revers-là.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'image aussi? C'est-à-dire qu'on a l'image de ce coach.
Ouais, mais c'est l'image du jeu de Montpellier. Mais pourtant, ça marche. Voilà, ils sont là. Ils sont là, je suis d'accord avec toi, mais voilà, t'as des clubs qui ne le prendraient pas parce que ça ne collerait pas, parce qu'ils veulent un coach qui peut-être ferait jouer différemment ses équipes. Mais après, c'est sa manière d'être et ça marche, quoi. Sa manière de
Très
faire,
bien.
Plutôt.
Et ben, on en reste là dans nos questions de l'after, dans un instant.
Donc, beaucoup de supporters de l'OM, sur Twitter ne croient pas au départ de Thauvin. Nous en reparlerons cet été. Je me souviens aussi de l'été dernier.
J'oubliais qu'on faisait l'after avec Twitter. J'oublie ça à chaque fois.
Pas toujours, mais j'aime rigoler de certaines choses.
Oui.
Alors, j'ai pas dit qu'il coûterait que 40, hein. J'ai dit un observatoire, la cité à 70. Moi, j'ai fait exprès de descendre de beaucoup pour, mais évidemment, et ça peut être la priorité de l'OM, et ça peut être à un moment. C'est une affaire d'oseille à 50, à 40.
S'il y a une grosse
ce sera
dur à.
Permettez-moi d'arrêter là-dessus, surtout qu'on a déjà.
Ne comprend pas toujours.
On répète la même chose, là, qu'on a dit
Allez,
tout à l'heure.
Passe,
non,
passe.
Mais ils parlent des supporters, c'est-à-dire qu'ils ont envie de le garder, quoi.
Ah oui, mais ça c'est autre chose.
Bah oui.
Daniel, il relance un débat et après il crie, on passe.
Mais faut que les supporters parlent comme les supporters.
Mais non, parce que je suis d'accord avec toi, t'as raison.
C'est bien.
Bah oui, le foot européen, on arrive. Fred Hermel pour commencer. Il y aura Philippe Auclair, il y aura David Lortot. Et il y aura également Simone Rovera. Tiens, on leur demandera quand même au début si un anniversaire à la Neymar, c'est possible dans leur pays, s'ils ont déjà vu ça. Allez, à tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.